Bonjour tout le monde.
C'est toujours un privilège pour moi de venir vous apporter la parole des dimanches. Et nous continuons sur notre série qu'on a dernièrement débutée sur le livre des apôtres. Donc nous allons nous concentrer sur les versets 6 à 11 du chapitre 1. Donc acte 1, verset 6 à 11. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Parole du Seigneur. Amen. Donc Luc nous rappelle dès l'ouverture du livre des Actes que ce livre n'est pas d'abord l'histoire de l'Église, mais la continuation de l'œuvre de Jésus-Christ. Le Christ ressuscité agit, règne et conduit son peuple par son esprit. Autrement dit, le christianisme biblique n'est pas défini en premier par ce que l'Église fait, mais par ce que Christ a fait, fait encore et fera. Cette péricope nous place à un carrefour de l'histoire du salut. Jésus est ressuscité, il a enseigné ses disciples pendant 40 jours au sujet du royaume, comme nous l'avons vu au verset 3. Et maintenant, il s'apprête à quitter visiblement ses apôtres. L'ascension n'est pas la fin de la présence de Jésus. Elle est le commencement d'une présence universelle et souveraine de Jésus. Jésus ne disparaît pas, il monte sur le trône. Il règne sur le trône. Il rentre dans la gloire du Père afin d'exercer son règne, d'intercéder pour les siens et de conduire l'avancement de son royaume. Mais les disciples révèle encore une préoccupation que nous connaissons bien. Ils veulent des réponses qui rassurent. Ils veulent des réponses à leurs interrogations. Ils demandent un calendrier, une restauration visible, une restauration immédiate. Or Jésus les éduque. Jésus ne nourrit pas leur curiosité eschatologique. Et dans ce passage, le Seigneur accomplit quatre choses décisives qui seront les quatre points de ce message. Il corrige premièrement les attentes trop terrestres sur le royaume. Il affirme la souveraineté absolue du Père sur l'histoire. Il confie à l'Église une mission mondiale rendue possible par la puissance de l'Esprit. Et enfin, il s'élève dans la gloire et scelle une promesse. Cette promesse, c'est qu'il reviendra. Nous voulons donc considérer ce texte comme une boussole de l'Église entre deux horizons. L'ascension de Christ et son retour. Là se trouve notre sécurité, parce que Christ règne déjà. Christ règne déjà. Et notre mission, c'est témoigner par l'Esprit. Témoigner par l'Esprit. Et notre espérance, c'est qu'il va revenir. Il reviendra. Et donc mon premier point, le verset 6, nous pouvons dire qu'une attente encore marquée par une compréhension terrestre du royaume. Au verset 6, nous lisons, « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» La question des disciples ici n'est pas une question incrédule. Non. Elle est adressée à Jésus comme Seigneur, comme le roi. Un titre chargé de reconnaissance et un titre chargé de soumission. Ils croient en sa résurrection. Ils ont reçu son enseignement pendant 40 jours. Et pourtant, leur attente demeure encore marquée par une conception terrestre du royaume de Dieu. Leur question montre qu'ils avaient compris que Jésus était le roi, mais non encore la nature universelle et spirituelle de son royaume. Ainsi, l'erreur des disciples n'est pas théologique au sens strict du terme, mais elle est eschatologique et missionnaire. Ils attendaient un rétablissement visible, immédiat, terrestre, centré sur Israël comme pays, alors que Dieu prépare un accomplissement progressif, mondial et spirituel. Le terme employé par Luc ici, lorsqu'on regarde le verbe rétablir dans le grec, est significatif. Il évoque une restauration, un retour à un état antérieur. Les disciples pensent aux promesses prophétiques de l'Ancien Testament concernant le relèvement d'Israël, la fin de l'exil, la victoire sur les nations. C'est à ça qu'ils pensaient. On peut dire que leur lecture des prophètes n'était pas fausse, mais elle était incomplète. Ils n'ont pas encore pleinement intégré que ces promesses trouvent leur accomplissement en Christ d'abord, puis dans l'Église, et enfin dans la nouvelle création. John Stott souligne que Jésus ne nie pas cette restauration, mais qu'il refuse d'en confirmer la forme ou le calendrier. La restauration aura bien lieu, mais elle ne sera ni politique, ni limitée à une nation. Elle commence par la venue du roi. Par sa croix et sa résurrection, elle s'étend immédiatement au rassemblement d'un peuple nouveau, composé de juifs et de non-juifs qui sont unis dans le Messie. L'enseignement de Jésus durant son ministère public et après sa résurrection a constamment redéfini le royaume. Celui-ci est un royaume qui est présent. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, il le dit dans sa parole. Mais non coercitif, qui est caché comme le levain dans la pâte, destiné à toutes les nations. Et nous parlons ici du déjà et pas encore. Le royaume est inauguré par la première venue du Christ, mais il sera pleinement manifesté lors de son retour. Et le règne messianique n'est pas une promesse suspendue. Il est une réalité actuelle, bien que voilée. Et ici, dans ce verset, la mention explicite du royaume d'Israël révèle une compréhension encore ethno-nationale. Les disciples avaient cette compréhension ethnique, nationale, terrestre du plan de Dieu. Les disciples attendent un retour à une centralité nationale alors que Dieu prépare une extension universelle du peuple de Dieu. Dans la nouvelle alliance, l'Israël de Dieu est désormais défini en Christ. Les promesses sont accomplies dans une communauté rachetée, composée de juifs et de non-juifs. L'Église n'est pas un plan secondaire, mais l'accomplissement du dessein éternel de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et notre confession de foi au chapitre 26, paragraphe 1, nous parle de cette unité du peuple de Dieu. Nous lisons, l'Église catholique ou universelle, que l'on peut dire invisible en raison de l'œuvre intérieure de l'Esprit de vérité et de grâce, comprend la totalité des élus, ceux qui ont été, sont ou seront rassemblés dans l'unité sous Christ, leur chef. Elle est l'épouse, le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Et donc en lui, en Christ, le peuple de Dieu n'est plus défini par la chair, mais par l'union au Messie. Un seul troupeau, un seul berger, un seul esprit. Jean 10, verset 16, nous lisons, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et en Corinthiens 12, verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Et il est frappant de constater que Jésus ne corrige pas immédiatement la formulation des disciples par une longue exhortation doctrinale. C'est frappant ici. Il choisit plutôt de déplacer leur attention du royaume attendu vers la mission qui était confiée. Il n'assouvit pas leur désir, leur questionnement eschatologique. Il les dirige vers la mission. Et John Stott voit ici une pédagogie pleine de sagesse. Nous lisons, Jésus préfère former ses disciples par l'obéissance à la mission plutôt que par la satisfaction de leur curiosité eschatologique. Après la résurrection, les disciples gardent une attente encore trop terre à terre. Ils espèrent un rétablissement politique immédiat du royaume pour Israël. Jésus va recentrer leur espérance. Le royaume est bien réel et déjà inauguré en lui, mais son accomplissement visible n'arrivera pas selon leur calendrier. Dieu conduit souverainement l'histoire et l'Église et l'Église est appelée non à spéculer sur les temps. Nous n'avons pas à spéculer sur les temps ou sur les moments où Dieu va accomplir les choses. Mais à attendre et témoigner par la puissance de l'Esprit. Et donc si le royaume n'est pas à comprendre selon notre entendement terrestre, alors une autre question se pose naturellement. Qui gouverne son accomplissement et son calendrier? Qui gouverne le monde? Qui gouverne l'histoire? Et Jésus y répond. Donc mon point 2, le verset 7, la souveraineté du Père sur les temps et les saisons. Nous lisons au verset 7. Il leur dit, Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Les disciples se posaient des questions, spéculaient, mais il les recadre pour leur dire, ce n'est pas à vous de chercher à connaître les temps ou les moments que Dieu a fixés de toute autorité et selon sa sagesse parfaite. Et la réponse de Jésus ici n'est pas méprisante. Il ne les méprise pas. Elle est profondément pastorale. Les disciples viennent d'exprimer une attente légitime, mais qui est mal orientée. Ils veulent savoir quand Dieu agira, alors que Jésus veut leur apprendre comment ils doivent vivre dans l'attente. Jésus ne nie pas l'existence d'un accomplissement futur du royaume. Il ne le nie pas. Mais il refuse de satisfaire une curiosité qui détourne l'obéissance. La connaissance des temps appartient à Dieu. Le témoignage jusqu'aux extrémités de la terre appartient à l'Église. Le calendrier appartient à Dieu. Et nous sommes uniquement appelés à la mission. Et c'est à ça que nous devons obéir. Ainsi Jésus recentre ses disciples. Le problème n'est pas ce qu'ils ignorent, mais ce qu'ils risquent de négliger. L'Église n'est pas appelée à vivre dans le calcul des échéances divines, mais dans la fidélité quotidienne de cette mission qui lui a été confiée. Les deux mots ici, les temps et les moments, lorsqu'on regarde le texte grec, nous avons pour les temps chronos, qui renvoie au temps mesurable, à la durée, à la succession d'événements, kairos, qui désigne le moment opportun, le temps déterminé par Dieu pour agir de manière décisive. Et ces mots servent à parler du calendrier de Dieu, sans que nous puissions en fixer une date exacte. Et donc, en associant ces deux termes, Jésus englobe l'ensemble du déroulement de l'histoire. Rien n'échappe à la souveraineté du Père. Rien n'échappe à la souveraineté du Père. Les grands jalons de l'histoire rédemptrice, comme les détails invisibles, sont fixés par Dieu, non laissés au hasard. Et cette affirmation s'inscrit dans la continuité de l'enseignement biblique. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Jésus précise que ces temps ont été fixés par le Père de sa propre autorité. Et ce qui signifie que Dieu n'est pas contraint par l'histoire. Dieu n'est pas contraint par l'histoire. Il ne réagit pas aux événements. C'est lui qui décrète les choses. Il décrète toutes choses. Il ordonne et gouverne toutes choses selon sa sagesse éternelle. Et notre confession de foi au chapitre 3, paragraphe 1 des décrets de Dieu, exprime cette vérité. Nous lisons, de toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même librement et immuablement tout ce qui arrive. Et John Stott de dire que l'ignorance humaine du calendrier divin n'est pas une faiblesse du plan de Dieu, mais une protection pour la foi du peuple de Dieu. Ignorer le calendrier divin, c'est nous protéger, garder notre foi, avoir confiance en lui. Et en déclarant « ce n'est pas à vous de connaître », Jésus établit une frontière salutaire ici, entre ce qui est révélé et ce qui est décrété. Il y a cette frontière-là, entre ce qu'il nous révèle et ce qu'il décrète. Et cette distinction est essentielle pour nous. Ce que Dieu a révélé nous appelle à l'obéissance. Ce qu'il a révélé dans sa parole nous appelle à l'obéissance. Et ce que Dieu a caché, ce que nous ne connaissons pas, nous appelle à la confiance. Nous appelle à la pleine confiance en lui. Et Et l'Église pêche lorsqu'elle cherche à franchir cette frontière. Soit par la spéculation eschatologique, soit par l'angoisse face à l'avenir. La foi biblique n'est pas nourrie par la maîtrise de l'avenir, mais par l'assurance que l'avenir est entre les mains de Dieu. Et il est crucial de noter que Jésus parle de souveraineté juste avant de parler de mission. La doctrine de la souveraineté divine n'est jamais donnée dans l'Écriture pour encourager la passivité, mais c'est pour libérer l'obéissance. Pourquoi ? Parce que Dieu maîtrise les temps. Dieu maîtrise et gouverne toutes choses. L'Église peut témoigner sans crainte, sans avoir peur, mais témoigner avec confiance que son Dieu protège et dirige et ordonne toutes choses. Et l'Église peut persévérer malgré l'opposition. Elle peut travailler sans anxiété quant au résultat. L'Église peut travailler tout en ayant confiance en Dieu, sans pour autant attendre un résultat. C'est comme on a parlé des prières, nous prions. Mais c'est Dieu qui est souverain sur toute chose. C'est lui qui décide au temps opportun quand il répond. En Corinthiens 3, versets 6 à 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui agit. Nous sommes que des témoins. Nous sommes que des objets qu'il a choisis, des instruments qu'il a choisis pour son œuvre. Notre Dieu accomplit ses desseins par des moyens ordonnés, notamment la prédication de la parole. La souveraineté de Dieu ne rend pas la mission inutile. Au contraire, elle la rend certaine dans son succès final. Et mon troisième point, le verset 8. La mission centrale de l'Église, être des témoins pour la puissance du Saint-Esprit. Nous lisons verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce verset 8, selon plusieurs commentateurs, est le verset clé du livre des Actes. Il ne s'agit pas simplement d'une promesse parmi tant d'autres, mais d'un programme divin qui structure tout le récit de Luc. Ce verset établit la source de la mission. La source de la mission, c'est-à-dire la puissance de l'Esprit. La nature de la mission, le témoignage, l'objet de la mission, qui est le Christ, et la portée de la mission, qui est universelle. Et John Stott écrit que l'Église n'a pas reçu une stratégie, mais une promesse. Non une carte détaillée, mais une puissance venue d'en haut. Ainsi, la mission chrétienne n'est pas une initiative humaine soutenue par Dieu, mais une œuvre divine accomplie par des instruments humains. Dieu nous utilise pour sa gloire. Nous sommes des instruments. Et il nous appelle à obéir à sa parole. Sa parole révélée. Et nous n'avons pas à spéculer sur quand est-ce qu'il va revenir. Mais nous devons vivre dans cette attente, dans cette confiance en ses promesses et dans la joie que le salut en Christ que nous avons. Mais vous recevrez une puissance. Le terme grec « dynamis » renvoie à une puissance efficace, active, transformatrice. Jésus n'annonce pas une amélioration morale ou un simple encouragement intérieur, mais une capacité surnaturelle accordée par le Saint-Esprit. La puissance précède la mission et non l'inverse. Cette œuvre de l'Esprit ne se limite pas à une régénération initiale, mais s'étend à toute la vie et au témoignage du croyant. L'Esprit ne remplace pas l'effort humain. L'Esprit ne remplace pas nos efforts, nos propres efforts, mais le rend fécond. L'Esprit rend fécond nos efforts. Et il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Le mot grec « martis », traduit par « témoin », désigne quelqu'un qui atteste ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Vous serez mes témoins. Le témoignage chrétien n'est pas d'abord une argumentation philosophique. Non, mais une proclamation fidèle des faits rédempteurs. La mort expiatoire du Christ, sa résurrection corporelle, son exaltation, sa seigneurie. C'est de ça que nous devions témoigner, de ce Christ-là, de ce Christ qui est mort pour nos péchés, de ce Christ-là qui prend soin de nous, et dont par les meurtrissures nous sommes guéris. Le témoin chrétien ne parle pas de lui-même. Parlons pas de nous, mais c'est de Christ dont nous parlons. Être témoin, c'est pas parler de chrétien, mais c'est parler de Christ, de ce Dieu-là, pour qui nous avons le salut, qui est mort pour nous. Le témoin chrétien ne défend pas une idéologie, il annonce une personne qui est vivante. Et cette christocentricité est au cœur de notre théologie. Dans notre confession de foi, au chapitre 8, paragraphe 1, où on affirme que le Christ est le médiateur unique et le centre du salut, où nous lisons, « Il a plu à Dieu dans son dessein éternel de choisir et d'établir le Seigneur Jésus, son Fils unique, selon les termes de l'Alliance, faite entre eux deux, comme médiateur entre Dieu et l'homme, prophète, prêtre et roi, chef et sauveur de son Église, héritier de toutes choses, juge du monde. Ainsi, toute mission authentique est nécessairement christocentrique, repose sur Christ, dans son contenu. Et la mention de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie et des extrémités de la terre n'est pas seulement géographique. Elle est théologique et historique. Elle révèle l'expansion ordonnée du plan de Dieu. De la ville sainte vers les nations, du peuple juif vers les peuples païens. De la promesse vers un accomplissement universel. Cette progression montre que l'Église n'est jamais appelée à rester centrée sur elle-même. Non. L'Église est centrifuge, c'est-à-dire qu'elle est envoyée vers l'extérieur. L'Église est envoyée vers l'extérieur. Cette mission universelle confirme que l'Église est désormais le véritable peuple de Dieu, rassemblé en Christ, sans distinction ethnique déterminante. Ni juif, ni non-juif. Tout le monde. Et le moyen principal de cette mission sera la prédication de la parole, accompagnée par la puissance souveraine de l'Esprit. Au chapitre 26, paragraphe 5 de nos confessions de foi, où nous lisons, dans l'exécution de cette charge qui lui a été confiée, le Seigneur Jésus appelle en dehors du monde et à lui-même, par le ministère de sa parole et par son esprit, ce que son père lui a donné, afin qu'ils marchent devant lui selon toutes les voies de l'obéissance qu'il leur a prescrites dans sa parole. Ceux qu'il a ainsi appelés, il leur commande de marcher ensemble dans des groupements particuliers ou églises pour leur édification mutuelle et la célébration requise du culte public qu'il exige d'eux en ce monde. Le Christ, le chef et le roi de son Église, appelle par sa parole et par son esprit les hommes et les femmes hors du monde pour les unir à lui et les faire marcher dans toutes les voies et dans l'obéissance. Et pour accomplir cette œuvre, il a donné à son Église toute l'autorité et tous les moyens nécessaires selon les règles qu'il a lui-même établies dans sa parole. Nous adorons Christ à travers sa parole. Nous n'inventons pas les moyens pour adorer notre Dieu, mais c'est dans sa parole qu'il nous donne les instructions, les moyens pour lui rendre gloire. Et donc l'efficacité de la mission ne dépend jamais du génie de l'Église, ne dépend jamais de la force ou de l'innovation d'une Église, mais de la fidélité de Dieu à sa promesse et de l'obéissance à sa parole. Enfin, mon quatrième point, du verset 9 au verset 11, l'ascension du Christ. Et nous lisons, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il viendra de la même manière dont vous l'avez vu monter au ciel. Et ici, Luc met l'emphase sur le caractère visible et corporel de l'ascension. Les disciples regardent une nuée qui intervient. Et Jésus disparaît réellement de leur champ de vision. Et l'ascension est souvent négligée dans la prédication chrétienne. J'ai souvent écouté, mais c'est souvent relégué, disons, au second plan. Alors qu'elle est indispensable pour comprendre la seigneurie de Christ. Elle est vraiment importante de comprendre la seigneurie du Christ. L'ascension n'est pas la disparition de Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui a disparu du monde. Il est monté au ciel, il n'a pas disparu. Il n'a pas abandonné son peuple. Mais son exaltation, c'est son exaltation. Et son retrait, c'est son intronisation. Il a intronisé le roi des rois. Il siège auprès du Père. Contrairement à une conception spirituelle ou symbolique, Jésus monte au ciel en tant qu'homme glorifié. Il monte au ciel en tant qu'homme glorifié. Celui qui a pris notre nature humaine ne l'abandonne pas. Il n'a pas abandonné sa nature humaine. Il élève à la droite de Dieu, à la droite du Père. L'ascension est donc profondément christologique et anthropologique. Notre humanité est désormais représentée dans la gloire. Notre humanité est représentée dans la gloire, auprès du Père. Et la mention de la nuée n'est pas ici un détail anodin. Dans l'Écriture, la nuée est constamment associée à la présence glorieuse de Dieu. On le voit dans Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. En Rois 8, les versets 10 à 11, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et donc, Luc veut nous faire comprendre que Jésus rentre dans la sphère de la gloire divine. Jésus entre dans la sphère de la gloire divine, recevant l'honneur et l'autorité qui lui reviennent comme le Fils incarné. L'ascension est le fondement de la médiation continue de Christ. Il règne, intercède et gouverne son Église depuis le ciel. L'ascension signifie que Jésus règne déjà. Il règne déjà, bien que ce règne soit encore voilé aux yeux du monde. Ce règne s'exprime de manière particulière par son intercession. Le Christ exalté n'est pas distant. Il n'est pas loin de son peuple. Il est activement en train d'intercéder pour son peuple. Et cette intercession assure la persévérance des saints et la fidélité de Dieu envers ses promesses. Et donc, l'Église peut avancer avec assurance, car son chef est vivant et règne et prie pour elle. Et les anges, ici, parce que ce sont des anges qui sont apparus aux disciples, ils adressent une question décisive aux disciples. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? À regarder au ciel. Ici, il ne s'agit pas d'un reproche contre l'adoration des disciples, mais d'un appel à un équilibre spirituel. Fixer les yeux sur Christ exalté ne doit jamais conduire à l'inaction. On regarde au ciel, comme on a mentionné dans notre prière. On regarde à Christ, mais on ne fait rien. On est passif. Rester figé dans l'attente du retour du Christ et de vivre comme s'il ne devait jamais revenir. Une église ne devrait pas remplacer la mission par une attente passive. Elle se doit d'être active. Le ciel n'est pas un écran de distraction. C'est une direction d'espérance qui doit produire des mains qui sont actives pour son Seigneur. Fixer nos yeux sur Christ doit nous faire comprendre que nous devons descendre de la montagne pour entrer dans la ville, là où les âmes ont besoin d'évangile. Nous devons descendre de cette montagne et aller faire des disciples en annonçant la parole de Dieu à ceux-là qui ont besoin de l'évangile. Les anges déclarent ensuite « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il reviendra de la même manière. Il y en a qui vont vous dire « Va revenir comme un voleur. » Oui, mais il reviendra de la même manière, de la même façon dont il est monté au ciel. Et cela implique pour nous de comprendre qu'il s'agit d'un retour personnel de ce même Jésus. Un retour qui est visible, un retour qui est glorieux, un retour qui est corporel. Et dans notre confession de foi au chapitre 32, qui parle du jugement dernier, nous dit que Dieu a fixé un jour où Jésus-Christ reviendra et jugera le monde avec justice, car le Père lui a donné toute autorité pour juger. Ce jour-là, tous, anges, rebelles et êtres humains, comparaîtront devant le tribunal de Christ pour rendre compte de leurs pensées, paroles et actes et recevoir selon leurs œuvres. Dieu a laissé l'heure de son retour inconnue afin que nous rejetions toute fausse sécurité et nous demeurions vigilants. Que nous soyons prêts pour la venue de notre Seigneur. Et cette espérance structure toute notre vie chrétienne. Elle est faite pour produire en nous une sobriété, c'est-à-dire vivre pour l'éternité. Ne pas vivre pour ce monde présent, mais de vivre pour l'éternité. Vivre comme des pèlerins de passage dans ce monde terrestre. Et cette espérance aussi doit nous donner une persévérance. Persévérance pourquoi ? Pour tenir face aux épreuves. Parce que des épreuves, nous allons en avoir. Des épreuves, nous allons vivre. Des épreuves. Et cela doit produire également en nous une sainteté. Parce que nous nous préparons à la rencontre de notre roi, qui montrera la montagne sainte de son Dieu, celui qui vit dans la sainteté. Et cette espérance doit nous donner du zèle aussi. Le zèle, pourquoi ? Pour l'urgence de témoigner. L'urgence d'annoncer la parole, l'évangile, à tous ceux qui sont perdus. Christ est monté au ciel et il règne. Christ reviendra et il jugera. Entre ces deux certitudes, l'Église est appelée à vivre dans la fidélité, à vivre dans la mission, à vivre l'espérance. L'ascension garantit que notre mission n'est pas abandonnée à nos forces. Dieu ne nous laisse pas tout seul. Il est au ciel, mais il ne nous laisse pas tout seul. Il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Et son retour promis garantit qu'elle n'est pas vaine, que nos efforts ne sont pas vains. Proclamez la parole de Dieu avec foi et zèle. Et laissez le calendrier de Dieu faire son effet. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Et nous sommes des instruments pour son œuvre. En conclusion, le Seigneur Jésus n'a pas abandonné son œuvre. Au contraire, il a élevé son œuvre. Celui qui a été crucifié règne désormais à la droite du Père. Celui qui a été humilié gouverne maintenant l'histoire. Il a été humilié. Il gouverne, il est le roi des rois. Et celui qui a promis de revenir reviendra, non en secret, mais dans la gloire pour juger le monde et achever son royaume. Entre ces deux certitudes, l'ascension et le retour, l'Église est appelée à vivre dans une posture spirituelle claire et fidèle. Les disciples attendaient un royaume conforme à leurs attentes. Jésus les a appelés à soumettre leurs attentes à la sagesse de Dieu. De la même manière, nous sommes appelés à examiner nos propres espérances. Attendons-nous de Christ qu'il confirme nos projets, ou sommes-nous prêts à être transformés par son dessein? Renonçons à façonner le royaume selon nos désirs. Nos désirs culturels, nos désirs politiques, nos désirs personnels. Et apprenons à discerner ce que Christ bâtit réellement par sa parole et par son esprit. Jésus rappelle que les temps et les saisons appartiennent au Père. L'Église n'est pas appelée à tout comprendre. Non. L'Église n'est pas appelée à chercher le quand et le comment, à quel moment et où. L'Église est appelée à tout confier entre les mains du Seigneur. Cette vérité nous libère de l'angoisse face à l'avenir et de la tentation de contrôler ce qui ne nous appartient pas. Dans l'incertitude, choisissons la confiance plutôt que la spéculation. Apprenons à prier avec assurance, sachant que notre Père gouverne parfaitement l'histoire et aussi notre vie personnelle. La mission confiée aux disciples dépasse infiniment leurs capacités humaines. C'est pourquoi Jésus promet la puissance du Saint-Esprit. L'Église ne vit pas de ses ressources, mais de la présence active de l'Esprit. Refusons toute confiance dans nos méthodes. Refusons toute confiance en nous, en nos forces ou en nos structures. Cherchons avant tout une dépendance renouvelée à l'Esprit par la prière, la parole et une obéissance quotidienne. Le cœur de la mission est clair. Vous serez mes témoins. L'Église ne témoigne pas d'elle-même, mais de Jésus-Christ ressuscité, de Jésus-Christ crucifié et de Jésus-Christ exalté. Que nos paroles, nos vies et nos priorités pointent vers Christ. Annonçons-le avec clarté, avec humilité et courage. Là où Dieu nous a placés, sans compromis, sur la vérité. Les anges rappellent aux disciples que Jésus reviendra. Et cette espérance n'est pas une fuite du monde, mais un moteur de fidélité. Celui qui reviendra est celui qui règne déjà. Vivant avec sobriété, vivant avec persévérance et joie et paix, sachant que notre travail dans le Seigneur n'est jamais vain. Tout ce que nous faisons n'est jamais vain. Même si ça ne porte pas de fruits aujourd'hui, Dieu interviendra au moment où il aura décidé selon sa parfaite sagesse. Gardons nos regards tournés vers l'éternité tout en ayant les pieds fermement engagés dans la mission présente. Mes frères et sœurs, nous vivons entre l'ascension et le retour de notre Dieu. Le Christ exalté règne, l'Esprit agit, et notre mission demeure. Et notre espérance, elle est certaine. Que le Seigneur nous trouve fidèles, vigilants et remplis de joie, jusqu'au jour où nous verrons celui que nous annonçons aujourd'hui par la foi. Apocalypse 5, verset 13. et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, Père souverain, nous te bénissons pour Jésus-Christ, notre roi exalté. Seigneur, pardonne-nous nos attentes trop terrestres. Pardonne-nous nos inquiétudes sur l'avenir et nos curiosités qui nous distraient ou nous éloignent de l'obéissance. Remplis-nous, Éternel, de ton Saint-Esprit, afin que nous soyons des témoins fidèles de Christ. Des témoins fidèles chez nous à la maison, dans l'Église et jusqu'aux extrémités de la terre, Éternel notre Dieu. Donne-nous courage, persévérance. Donne-nous la joie en attendant le retour glorieux de notre Seigneur. Garde-nous dans la sainteté. Seigneur, affermis notre espérance. Et par ta grâce, fais avancer ton royaume par la puissance de ta parole. Que toute la gloire et toute l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi, notre puissant Seigneur, exalté, que nous te prions. Amen.